Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité du week-end. Au programme aujourd'hui, Václav Richter et sa rubrique littéraire, évidemment. Elle est aujourd'hui consacrée à un ouvrage sur Marcel Proust. Avant cela, Anna Kubishta, de retour du Festival international du film de Carlo Vivari, vous propose un entretien avec Thomas Salvador, le réalisateur de Vincent n'a pas d'écailles, un film bien accueilli par la critique. Bonne écoute à tous et à toutes. Le Festival international du film de Carlo Vivari s'achève ce samedi après plus d'une semaine de films et de rencontres autour du cinéma. Si pour cette 50e édition anniversaire, il n'y a pas de films français en compétition, la France est quand même représentée avec quelques films ainsi que des coproductions. Vincent n'a pas d'écailles est le premier long métrage du réalisateur Thomas Salvador. Un film avare en dialogue, mais c'est cette économie de parole couplée à une histoire originale qui en fait un film poétique et atypique. Le point de départ, Vincent a une particularité, ses forces se décuplent au contact de l'eau. Un pouvoir qui donne lieu à des aventures tout en modestie, loin des super-héros d'Hollywood. Anna Kubishta s'est entretenue avec Thomas Salvador qui lui a expliqué pourquoi son film avait eu une si longue gestation, 8 ans entre la naissance du projet et la réalisation.
Culture sans frontières.
Bah, ça a été long parce que c'était pas évident à écrire, parce que c'est sur plusieurs registres, c'est à la fois une comédie, romantique, une histoire d'amour, mais c'est un film un peu d'action, fantastique aussi, parce qu'il se passe des choses qu'on voit pas dans la vie de tous les jours, des choses surnaturelles. Et c'est vrai qu'en France, on a aussi beaucoup d'habitude, enfin, comme dans beaucoup de pays, on pratique pas le mélange des genres. Donc c'était dur à trouver l'équilibre. Et puis comme il y a très peu de dialogue, c'est très visuel, et qu'il n'y a pas beaucoup de psychologie. Enfin, la psychologie, elle passe pour moi par les raccords, par l'image. Donc ça a été long déjà à écrire et puis surtout à trouver le financement.
Justement, comment on trouve à l'heure actuelle, notamment voilà, un financement pour un film que d'aucuns pourraient considérer comme loufoque, mais dans le bon sens du terme. Comment est-ce qu'on trouve un producteur qui a un petit peu le courage de se lancer dans l'aventure?
Alors, il se trouve qu'en l'occurrence, le producteur, c'est ma grande sœur ici, mais je pense qu'il y a, d'autres... il y a quand même des gens qui sont excités, heureusement, il y en a encore, à l'idée de défendre des projets atypiques, parce que c'est vrai que tout le monde se plaint un peu d'une forme de norme, qu'on prend plus de risques parce que maintenant, comme ça coûte tellement cher et que faut être sûr, donc on fait des licences. Voilà, c'est des licences. On adapte des bandes dessinées, des romans, des séries télé. Et c'est vrai que là, il y avait un risque énorme parce que le film, il pouvait être complètement grotesque. Même des gens me disaient, quand il va nager comme un dauphin, le héros, les gens vont rire, ça va pas être sérieux. Mais comme on a mis du temps et qu'on est tenace, et puis à un moment, puis comme j'ai fait des courts-métrages aussi qui ont eu un peu de succès, qui étaient aussi très. Alors avec carrément pas de dialogue, des choses physiques aussi, comme ça, et des gens ont pu se rendre compte que je pouvais quand même peut-être faire des choses. Il y avait peu de choses sur le papier, mais que ça pouvait devenir quelque chose sur l'écran.
Justement, vous dites pas de dialogue, ça passe énormément par le corps, en plus, ce film en particulier, puisque c'est un personnage qui s'exprime d'une certaine manière énormément justement par son corps un peu surnaturel. Je crois savoir que vous êtes acrobate, hein. Ça vient de ça aussi, justement, cette envie juste d'exprimer les choses par le physique.
C'est un tout. Moi, j'aime voir ça au cinéma, quelqu'un qui parle de lui ou qui a du mal à parler de lui, mais qui nous en dit tellement par ses actions, par sa manière de bouger, tout ça. Donc je suis très sensible à ça. Et puis j'aime aussi donc les films où les personnages font des choses physiquement au-delà que ce soit danser, se battre, je sais pas. Donc c'est venu naturellement. Et c'est peut-être parce que je suis pudique aussi, c'est un moyen un peu détourné de parler de choses qui sont proches de nous, avec le fantastique et le corps, plutôt que d'avoir à dire ce qu'on pense, je sais pas.
comment on passe justement de l'acrobatie au cinéma? C'est aussi un sport de voltige d'une certaine manière, le cinéma?
Ah oui, c'est compliqué, le cinéma. En fait, j'ai fait de l'acrobatie, mais j'ai fait plein de choses, mais jamais professionnellement. Mais c'est toutes ces choses qui me nourrissent aussi quand je fais des films. Mais je veux vraiment être cinéaste depuis que j'ai 13-14 ans. Et c'est vrai qu'après, dans mes films, je mets des choses qui sont proches de moi et que j'ai envie d'explorer ou que j'ai envie de faire, tout simplement, comme c'est moi qui joue.
Justement, c'est un peu un premier film français, c'est ce qu'on peut lire en tout cas, de super-héros. Alors, vous l'avez expliqué aussi tout à l'heure, sans numérique, sans effet numérique, mais avec des trucages un peu à l'ancienne. Vous n'utilisez pas en fait les codes classiques des films de super-héros qu'on peut voir comme Spider-Man, etc. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est même pas forcément un film de super-héros. Moi, je voyais plutôt ça comme du conte en fait.
Oui, alors on n'en a pas parlé au débat là, mais pour moi, c'est pas du tout, c'est pas un film de super-héros parce que c'est pas la problématique du héros. Il n'a aucune vocation à sauver la planète.
Même s'il aide son copain quand même.
Oui, mais parce qu'il aide à une échelle humaine, je dirais presque locale. C'est-à-dire que sa mission, c'est presque de vivre dans ce monde tel qu'il est, en apprenant à l'assumer, tout en sachant que ça peut être dangereux ou mal perçu. Et donc c'est un personnage plutôt qui cherche l'équilibre entre sa discrétion, le fait de vouloir être tranquille et son envie aussi, à un moment là, enfin pour moi le temps du film, c'est le temps pour lui de le partager en fait et de voir ce que ça fait. Donc c'est une problématique qui est pas du tout celle du super-héros.
Et sur le conte, du coup, est-ce que vous aviez un peu plus l'impression de vouloir raconter une histoire de style justement ou pas du tout?
Non, j'y ai pas pensé. On m'en a parlé pas mal, mais. Moi, je fais toujours les choses très au premier degré. C'était l'histoire de ce type. Après, évidemment, ça peut devenir allégorique, mais pour moi, c'est pas au cinéaste d'y penser et de se dire « alors, je vais faire un conte qui va montrer qu'eux ou parler d'eux ». Moi, je suis toujours comme ça, de manière presque un peu naïve. Je suis concentré sur mon histoire. Et puis après, avec tous les débats, je comprends de quoi il est question.
C'est bien, c'est le spectateur, finalement, ouais. qui vous fait...
Vraiment, sur ce film, ça a été énorme. Comme j'ai aucune distance, vu que je l'ai écrit, que je joue dedans, que me suis occupé des effets spéciaux un peu. J'ai aucun recul, en fait.
Justement, vous disiez que vous avez toujours voulu être cinéaste, et également que vous avez toujours adoré aller au cinéma, etc. Quels sont un peu vos films de référence ou vos idoles au niveau des réalisateurs?
Vraiment, quand j'étais tout enfant et tout, moi, c'était vraiment les Buster Keaton. Je sais pas, j'aime beaucoup Jacques Tati.
Ouais, il travaille beaucoup avec le corps pour le coup,
ouais,
aussi.
Et puis avec peu de dialogue et tout ça. Ouais. Aujourd'hui, il y a un cinéaste vraiment que j'aime beaucoup qui est David Cronenberg, Kiyoshi Kurosawa, mais qui font des films fantastiques d'ailleurs. Qui ne sont pas des films forcément très bavards, mais avec, qui se passent dans un environnement réaliste avec un peu une dimension fantastique. C'est très varié en fait. C'est toujours dur de répondre à la. J'ai pas une chapelle, j'ai pas. Mais j'aime beaucoup le cinéma classique hollywoodien, que les westerns, les films noirs, les films de genre, et le cinéma japonais. Je suis très sensible à ça.
Et en tant que réalisateur, qu'est-ce que vous aimez justement, comme sensation dans le fait de tourner?
Quand on tourne, on n'a aucune sensation. Hein. C'est trop dur. Surtout quand on n'a pas un gros budget. Je pense que c'est la même chose quand on a un gros budget, parce qu'il y a plus de pression, entre guillemets. Mais je pense que pour beaucoup de réalisateurs, le tournage, c'est le moment où... qui est peut-être parfois le moins agréable parce qu'il n'y a pas le temps de la réflexion. On est toujours dans l'urgence. C'est le tunnel. Il faut avoir réfléchi avant ou faut alors réfléchir après au montage. Mais au tournage, il faut juste tenir la journée. Il faut courir. Et comme le film était compliqué et que je joue dedans, c'était le tournage. Je serais incapable de dire ce qui m'a plu ou déplu. On l'a fait.
Juste pour terminer, pourquoi ce titre, Vincent n'a pas d'écailles, qui, d'ailleurs, c'est dommage, c'est pas forcément conservé dans les titres étrangers.
Ouais. Le film s'est appelé Vincent pendant longtemps, et puis quand il a été fini, le distributeur et ma productrice ont dit « Ah non, mais ça va pas, c'est trop timide, c'est trop simple ». Donc on a cherché, et puis j'ai trouvé ça, et je trouve que c'est... Maintenant, j'entends comme la voix intérieure, en fait, de Vincent, c'est « Il n'a pas d'écailles, comme n'importe quel être humain, en fait ». Et Vincent, c'est un être humain. Sauf qu'il a ce truc-là avec l'eau, mais c'est pas un homme poisson, c'est pas c'est une manière, je sais pas, peut-être poétique de le dire dans la négative.
a beaucoup écrit en français sur Marcel Proust, mais les ouvrages consacrés à l'œuvre et à la vie de cet écrivain, traduits en langues étrangères, ne sont pas nombreux. Un de ces livres évoquant la vie de Marcel Proust vous est maintenant présenté par Václav Richter dans sa légendaire rubrique littéraire.
Rencontre littéraire. Avez-vous lu le chef-d'œuvre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu? Il y en a qui sont découragés par l'énormité de ce roman en 7 tomes, et il y en a d'autres qui sont subjugués par le génie de ce narrateur incomparable qu'était Marcel Proust, et son roman est devenu pour eux un univers familier et mystérieux à la fois, dans lequel ils reviennent toujours. Ces derniers sont également les lecteurs potentiels de la grande biographie en 2 tomes de Marcel Proust, signée Jean-Yves Tadier. La traduction tchèque du premier tome de cet ouvrage est sortie aux éditions Dauphin. Peut-on raconter la vie de Proust? Demande Jean-Yves Tadier. On critique volontiers les biographies longues, érudites, à l'américaine et les professeurs qui les écrivent. On ne trouvera pourtant dans ce gros livre un seul fait sans signification et peu qui n'aboutissent à l'œuvre. Depuis un siècle, on ne cesse de s'interroger sur le rapport entre l'œuvre de Proust et sa vie. Miroslav Drost, traducteur tchèque de sa biographie, estime que c'est un rapport extrêmement étroit.
Dans son œuvre littéraire, dans ses romans, Proust parlait de lui-même. Du moins, c'est ainsi que je le comprends. En Tchéquie, jusqu'à présent, aucune biographie de Marcel Proust n'a été publiée. À mon avis, chez Proust, on ne peut pas séparer la littérature et la vie. C'est du moins de cette façon que je le perçois. Quand Proust écrivait, il parlait de lui-même. Il n'est donc pas possible de séparer les deux choses. Sa biographie est à la fois la biographie de son immense œuvre littéraire. Les deux choses se confondent.
Jean-Yves Tadier estime aussi que dans son roman, Proust a tout réutilisé de sa vie et de sa pensée. Professeur à la Sorbonne, il poursuit ses recherches sur Proust depuis un demi-siècle et la grande biographie parue en 1996 aux éditions Gallimard peut être considérée comme un aboutissement d'une partie de ce travail. Le traducteur Miroslav Drost ajoute.
Je pense que Jean-Yves Tadier poursuit ses recherches sur Proust depuis très longtemps. Chez Gallimard, il dirige la collection Proust. À mon avis, c'est, si j'ose dire, le spécialiste de Proust le plus important en France. Il a dû écrire ce livre très longtemps, certainement. Je pense que c'est un ouvrage immense que nous devons à Jean-Yves Tadier et je lui en suis très très reconnaissant.
Pour comprendre la proximité étroite entre la vie et l'œuvre de l'auteur dans la recherche du temps perdu, il faut se pencher un peu sur la méthode littéraire qu'il a utilisée. Se basant sur les idées de Schopenhauer et de Bergson, l'écrivain a édifié la trame et a donné la forme finale à son œuvre. Il ne s'agit cependant pas de l'application directe de la philosophie dans la littérature. Si Proust a fait revivre certaines idées de Bergson dans son roman, c'était parce que les idées de ce philosophe français lui étaient très proches. Cependant, il n'adopte pas sa philosophie dans son ensemble, mais il la modifie et la transforme en fonction de ses besoins et selon sa propre intuition. D'ailleurs, Bergson lui-même attribuait à l'intuition le rôle principal dans la connaissance du monde. Miroslav Drost souligne le rôle du temps dans l'œuvre de Proust.
Je pense que c'est justement le hledání ztraceného času, parce que là, il se vyhledával.
Je pense que le thème majeur de son œuvre est justement cette recherche du temps perdu. Il cherchait à retracer sa propre vie, à se retrouver lui-même. Il cherchait le temps dans lequel il avait vécu, le temps révolu depuis longtemps. Il cherche à y retourner, revient à sa jeunesse, à ses liaisons, ses amitiés, à la société d'antan, à la vie culturelle de jadis et d'autres choses encore.
Pour la première fois dans le contexte littéraire mondial, la psychologie des personnages est liée au temps. L'âme des personnages du roman de Proust change dans des intervalles de temps d'une telle façon qu'elle devient presque méconnaissable. Cependant, notre mémoire est imparfaite et n'est pas capable à tout instant de faire ressurgir devant notre regard intérieur ce que nous avons vécu, mais ces faits et connaissances ne se perdent jamais entièrement. Ils restent cachés quelque part en nous, en attendant ce moment mystérieux ou quelque chose qui est en rapport avec eux ou leur ressemble d'une certaine façon, les fait ressurgir dans notre mémoire. Ce rôle est joué dans le roman de Marcel Proust par une madeleine, ce petit gâteau qu'on trempe dans le thé. Au moment où le héros du roman met un morceau de madeleine sur sa langue, son goût lui rappelle une situation analogue vécue dans son enfance et avec elle, comme attirée par elle, ressurgissent de vieux souvenirs tout à fait nés et vivants. Cela permet au narrateur du roman de faire une confrontation qui lui apprend que son moi actuel est bien différent du moi de son enfance. La biographie détaillée permettra au lecteur qui connaît l'œuvre de Proust de comparer les personnes et les situations du roman avec celles de la vie qui leur servait de modèle et de découvrir le monde dans lequel l'auteur a évolué. Miroslav Drozd évoque le milieu et la société de l'écrivain.
Je ne sais pas dans quelle mesure Proust était un personnage connu à son époque, bien qu'il ait obtenu encore de son vivant le prix Goncourt. Bien sûr, il était un homme de société, un homme de la haute société pour ainsi dire. Il était donc très bien connu dans certains milieux, dans certains cénacles, dans les salons. Il côtoyait toute une série de personnalités très importantes. Il a pris également une part active à l'affaire Dreyfus en faveur de Dreyfus. Je pense que ceux qui le connaissaient étaient au courant de ce qu'il écrivait. Pour les autres, qui ont eu l'occasion de l'approcher, c'était sans doute un grand événement. Il reste à savoir s'ils ont lu son roman jusqu'à la fin, 3000 pages et même plus.
Proust nous a appris que chaque étape de notre vie nous transforme, mais que l'imperfection de notre mémoire ne nous permet pas de percevoir ces changements. Notre moi passé existe pour nous seulement dans notre imagination, dans les images que nous avons créées. Et cela est valable aussi pour la connaissance des personnes de notre entourage. La perception des choses liées d'une certaine façon à notre vécu antérieur permet au narrateur du roman de retrouver la vérité de son passé. Elle lui permet aussi d'évoquer les faits et les comportements de ses proches et de dévoiler par la confrontation de ces faits les tendances et les désirs cachés. Ainsi, le temps perdu devient le temps retrouvé. Le passé tombé dans l'oubli jette une nouvelle lumière sur la réalité présente. Le moi fait la connaissance de lui-même et dévoile aussi les secrets de ses proches. Il découvre ce qui était sincère et ce qui était fin dans le passé. Le visage réel des personnages perdus dans le temps devient de plus en plus net. Marcel Proust a vécu entre 1871 et 1922 et son chef-d'œuvre a été écrit entre 1906 et 1922. La société décrite par lui est à jamais disparue, mais son livre nourrit toujours notre imagination, nous permet de retrouver le temps perdu et de rendre la vie à ce qui n'est plus. Miroslav Drozd est optimiste sur l'avenir de l'œuvre de Marcel Proust.
Je pense que son œuvre ne s'est ouverte, n'est devenue vraiment accessible qu'aux générations postérieures. Je n'arrive pas à dire comment son œuvre sera perçue à l'avenir. À mon avis, c'est tout simplement un génie de la littérature du XXe siècle et son œuvre géniale ira encore plus loin. J'en suis profondément convaincu, bien qu'il y ait beaucoup de ceux qui ne sont même pas capables d'ouvrir ses livres, qui refusent même d'en parler. Je pense qu'il se situe au sommet absolu de la littérature. Je vois en lui un membre d'un cénacle dans lequel figurent avec lui Franz Kafka et Jaroslav Hašek, par exemple.
Jaroslav Hašek, například.
Voilà, c'est la fin de notre émission avec la rubrique littéraire de Václav Richter qui vous proposait de découvrir un ouvrage consacré à Marcel Proust. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site internet www.radio.cz/fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter. Merci une fois de plus pour votre fidélité et votre oreille attentive. À très bientôt. Ahoy.